France Culture. Les nuits de France Culture.
La course de fond qu'avait été son existence, Alain Mimoun l'a terminée en 2013 à 92 ans. Cette course, commencée dans l'Algérie du début des années 20, celui qui fut sans doute le plus grand athlète français du XXe siècle, la racontait à David Hakoun pour les auditeurs de Mémoire du siècle de 1996. De son enfance pauvre, dans la région des hauts plateaux de Télague, jusqu'au sommet de sa carrière sportive, que fut sa victoire dans le marathon des Jeux de Melbourne de 1956, Alain Mimoun déroulait le fil de son histoire. Celle d'un enfant de l'Algérie, auquel ses années de guerre héroïque, passées par l'enfer de Monte Cassino, n'avaient pas suffi pour gagner de la patrie qu'il s'était choisie, une reconnaissance traduite autrement que par des décorations. Comme n'avait d'ailleurs pas suffi, ses multiples titres nationaux et internationaux et ses 3 médailles d'argent remportées derrière son grand ami Émile Zatopek. Une médaille d'or, au terme d'un marathon de légende, c'est ce qu'il fallut à Alain Mimoun pour accéder à un statut social accordé à sa valeur. Parce qu'il était volubile, pour ne pas dire bavard, devant un micro ou avec les connaissances qu'il croisait du côté des bords de Marne, de Champigny et Joinville, ou sur la terre d'élection qu'était pour lui la Corrèze, peut-être aussi parce que ses récits avaient un très fort accent cocardier, c'était parfois avec un sourire en coin que certains l'écoutaient raconter son histoire. À tort, car l'histoire que racontait Alain Mimoun avait beaucoup à nous dire du siècle dans lequel il avait couru. À sa mort, un hommage à la hauteur de son mérite et dont il aurait été comblé lui a été rendu par le président Hollande dans la cour des Invalides. Mémoire du siècle, Alain Mimoun, une émission diffusée le 21 juillet 1996 sur France Culture.
Mémoire du siècle, Alain Mimoun. À près de 75 ans, Alain Mimoun court toujours. Et ce depuis que jeune enfant à Télague, sa ville natale au sud d'Oran, fasciné par la France métropolitaine qu'il découvre dans les manuels scolaires, il décide de partir à la conquête de ce pays béni des dieux comme il aime à le répéter. Il lui fallait encore traverser la Méditerranée, faire ses preuves, mériter sa consécration et pouvoir un jour déclarer avec fierté « J'ai donné du sang à la France, elle m'a donné des médailles ». Cette obsession du devoir à accomplir, ce besoin incessant de remettre l'ouvrage sur l'établi, lui feront toucher les sommets de la gloire. Jamais sportif français n'égalera ses performances, réalisées en grande partie à un âge où la plupart des athlètes se contentent d'égrener leurs souvenirs. Mais on retiendra de toutes ses victoires l'or olympique au marathon, obtenu à Melbourne en 1956. Depuis, dit-il, j'ai l'impression d'accomplir un immense tour d'honneur. Retraité de l'éducation nationale, comme professeur à l'Institut national des sports, il partage son temps aujourd'hui entre son centre sportif de Bugeat en Corrèze et l'Olympe, sa maison des bords de Marne.
Nous étions une famille très pauvre. Et ma maman, c'est-à-dire que mon père était un petit cultivateur, on appelait ça les fellahs là-bas, hein, c'est un petit cultivateur, il avait quelques lopins de terrain. Je commence par lui rendre hommage d'ailleurs, parce qu'il est mort de fatigue. Il est mort à 75 ans, mais vraiment de la fatigue. Parce que mon papa, c'était un tâcheron. Il n'aimait pas être à la disposition d'un patron. Il se commandait, il prenait tout à la tâche, vous comprenez? Et on appelait, c'était un saisonnier. saisonnier, c'est-à-dire chaque saison avait son boulot. C'est-à-dire l'hiver, il cassait les cailloux. Casser les cailloux, parce qu'avant, il n'y avait pas les concasseurs, machines maintenant pour les cailloux, pour les routes, vous savez. Alors, il cassait avec la martelette, il cassait. Et des fois, il travaillait jusqu'à minuit au clair de lune, parce que c'était au mètre cube. Alors, il voulait gagner un peu plus d'argent pour nourrir ses gosses. Alors, l'hiver, il faisait ça. Alors, le printemps, il changeait, il avait des lopins de terrain, il cultivait, il faisait des melons et des pastèques. Il les plantait pour les vendre l'été. Quand c'est mûr, quoi. Et l'été, il avait une spécialité. Il faisait les meules. C'était un constructeur de meules de paille, parce que à ce moment-là, il y avait pas les machines, les moissonneuses. Elles font tout maintenant. Parce qu'avant, c'était toute la moisson est venue dans ce qu'on appelait une aire. Et là, il y avait la machine, comme une espèce de locomotive, qui dépiquait. Et il y avait des spécialistes pour faire des meules. Des meules, ça faisait 4, 5 étages. C'est des grandes meules, pas comme ici. Hein. Et puis, ça, c'est l'été. Et l'automne, ils taillaient la vigne. Tailler la vigne, vous voyez, c'est donc c'était un spécialiste, c'était un saisonnier.
Et vous étiez combien ?
Nous étions 7 gosses, elle a perdu 3 en bas âge, et j'avais dans la pauvreté, vous savez comment c'est comme l'ancien temps. Hein. Et je suis l'aîné, et alors, le bon Dieu a donné tout à l'aîné, quoi. Et puis j'ai une histoire, moi, j'ai une histoire, c'est que ma maman, qui était une femme fantastique, j'ai perdu à l'âge de 94 ans, il y a 2 ans, j'ai perdu. Elle est morte heureuse parce que j'ai subvenu à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie. Et même comme soldat, j'ai envoyé ma paye. Ah, vous voyez, ça me donne un peu les larmes aux yeux parce que il n'y a pas beaucoup d'enfants comme ça. Hein. Alors, parce qu'une maman, c'est au-dessus de tout. Chez nous, la maman, c'est après Dieu. C'est la maman. Et d'ailleurs, on devrait l'apprendre à la maternelle. Il y a un proverbe qui dit, tu travailleras toute ta vie, tu n'arriveras pas à payer les 9 mois que tu es resté dans son ventre. Quand elle est enceinte de 9 mois. Alors, ouais, c'est vous comme proverbe, ça. Alors, ma maman, qui était enceinte de 6 mois, de moi, elle a fait un rêve formidable. Elle a rêvé qu'elle se promenait dans la nuit avec un beau clair de lune. Un clair éclatant, vous savez. Et elle regardait cette lune, et puis d'un coup, cette lune se détache du ciel, elle vient vers elle. Mais grandeur comme on la voit, hein, pas la grandeur naturelle. Et cette lune se détache, elle vient. Et comme là-bas, chez nous, elle porte des voiles, les femmes, et elle a ramassé cette lune comme ça, et elle se réveille. Toute frissonnante, et puis, oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui... Elle voyait vraiment la lune, elle croyait qu'elle l'avait avec elle, quoi. Et elle se réveille, et le lendemain, elle va vite voir, vous savez, ces vieilles dames-là, vieilles femmes qui interprètent les rêves. Hein. Elle lui raconte. Et cette femme, cette vieille dame, elle lui touche le ventre comme ça, et puis dit, tu sais, t'es un garçon dans ton ventre. Et puis, en plus, c'est un garçon qui deviendra quelqu'un dans la vie. Alors ma mère, t'es jeune, j'avais 18 ans. Ma mère dit, voilà, il faudrait que je l'envoie à l'école. Alors je vais l'envoyer à l'école, il n'y a que ça. Et son idée, vous voyez, tout en étant illettré presque, eh bien, c'était de faire un instituteur. Et c'était dans sa tête, instituteur. Un instituteur, c'est quelqu'un, hein, même maintenant, dans nos campagnes, c'est quelqu'un de bien, quoi. Et alors, moi, je travaillais. À l'école, j'étais toujours premier, deuxième. J'ai un certificat avec d'études, mention bien, diplôme, et là encore, qui justifie tout. Et alors, des familles, le colon, elles disaient à ma mère, mais dis donc, toi, tu te rends compte, ton fils, tu ne peux pas demander une bourse ? Demande une bourse pour ton fils, parce que là, il peut continuer à faire des écoles, là. Comme tu es pauvre, tu ne peux pas. Pensez, on ne mangeait même pas notre faim. Hein. Nous, parce que moi, quand je mangeais le dimanche, je mangeais de la viande. Et c'était la fête chez nous. Hein. C'était quand ma mère tuait un coq ou une poule ou quelque chose, c'était la fête. Vous voyez, tellement. Du poulet avec du riz, pour nous, c'était vraiment quelque chose de formidable. Alors, elle fait, même si c'est la femme de Colin qui lui a fait la demande. Alors, elle fait la demande, refusée. Alors qu'elle l'a donnée au fils de Colin. voyez l'Algérie, comment que c'était. Quand on vous parle de l'Algérie, que ce peuple français n'était même pas au courant, ils s'en foutent. Le peuple français croyait qu'ils étaient tous français. C'était la... Ah oui, ils croyaient que c'était français. Ils croyaient comme les Français d'ici. Alors que c'était pas ça du tout.
Mais alors, quelles étaient vos relations justement avec les colons, avec eux, et notamment cette famille?
Moi, j'avais pas de complexe. J'avais pas de complexe du tout. Moi, je me croyais encore supérieur, moi. Et c'est pour ça que j'ai pas compris ça, qu'on me refuse. Alors, je me suis dit, c'est ça, c'est pour ça. Mais c'est pas mon pays, ici. Vous vous rendez compte, en 1934-35, il n'était pas question d'indépendance à ce moment-là. Hein, il n'était pas question de... Mais moi, j'étais frustré. Je me dis, mais c'est pas mon pays. Mais mon pays, où il est? Ah, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ça. Et puis ces belles images que je voyais sur les livres de géographie, vous savez, des dessins avec des villages, le clocher, des vaches dans les champs, en couleur en plus. Hein. Ah, j'ai dit, quand on est gamin, on rêve beaucoup. Hein. Puis surtout, je lisais beaucoup du Jules Verne et tous les voyages, etc. etc. Ah, j'ai dit, c'est mon pays là-bas. C'est ça là-bas, ma mère patrie. C'est pas ici, l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? C'est pas ça. Bon, alors j'ai travaillé pendant 16 ans. Et moi, je disais toujours à mon patron, qui était un patron formidable, c'est un Français de France, et je lui dis, vous savez, monsieur Catala, moi, je reste pas ici. Hein. Mais tu es fou, mais tu es pas bien. Je mangeais à table avec lui. Hein. Vous voyez, vous rendez compte, si c'était des gens bien, et, alors que la bonne, elle mangeait pas à table avec lui. Et moi, je mangeais, parce qu'il voyait le boulot que je faisais. Et il me dit, mais je te considère comme mon fils. Oui, mais monsieur Catala, mais je suis pas votre fils. Moi... Je suis le fils d'un autre pays qui est plus loin. Vous rendez compte à cet âge-là, à 18 ans? Eh bien, la déclaration de la guerre, 39, hein, eh bien, je me suis engagé tout de suite. Je manquais 3 mois pour faire 18 ans, ils m'ont pris quand même parce que c'était la guerre. Et je suis parti pour connaître cette France, pour connaître cette patrie, le destin. Pensez au destin. Vous voyez, je n'étais pas destiné à rester là-bas. C'était ma patrie, c'était la France. Hein. Et je m'excuse, j'ai fait 3 mois de classe ici, à Tlemcen, dans les tirailleurs, et tlac, j'ai débarqué en France. Ma mère, elle pleurait, elle se roulait dans un, je me rappelle, un tas de sable, elle se roulait parce qu'elle avait peur que je meure, n'est-ce pas? Puis après, elle acceptait, il n'est pas devenu instituteur, il va peut-être devenir officier, la pauvre femme, parce qu'elle suivait son rêve. Suivait son rêve. Eh bien, je me suis tapé 7 ans. Vous voyez, 7 ans de guerre. Hein? La France, la débâcle. Je n'ai pas été prisonnier. Je reste en zone libre. Et au moment où les Allemands voulaient occuper toute la France, je me sauve en Algérie pour continuer mon engagement. Débarquement des alliés en Algérie. Campagne de Tunisie. 7 mois de Tunisie. Terrible. Victoire de Tunisie contre Rommel, entraînement du matériel américain pendant 3 mois et débarquement en Italie. 1 an d'Italie. Et 37 jours devant le Mont Cassino. L'enfer. J'ai vu l'enfer sur Terre avant de le voir s'il est là-haut. J'espère pas le voir.
Alors justement, à Cassino.
Je suis blessé, j'ai failli perdre une jambe à Monte Cassino. Parce que je suis un miraculé. Hein. J'ai failli perdre une jambe. Je suis évacué à l'arrière. Je tombe. Il faisait un temps fantastique. Je tombe sur un hôpital américain. On est à 50 km à l'arrière, un hôpital de campagne, vous savez, en toile de tente. Le soir même, un ouragan terrible. J'étais dans un camion GMC. Le camion, le vent tellement... Il me semblait qu'il allait se renverser tellement le vent était fort. Et le matin, il y a une sentinelle française qui lave là-bas. Il me dit, ça va, mon vieux? Oh, je lui dis, tu te rends compte? Il me dit, la nuit, sans soins, sans rien, ce que je viens de passer, hein, tu n'aurais pas un peu de café? Ah, tout de suite, il va me chercher un quart de café. Fantastique, ce quart de café, je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Et il me dit, dis donc, tu as de la chance. Moi, dans mon fort intérieur, il me dit, je dis, mais ça ne va pas. Quelle chance que j'ai, tu te rends compte? Si, mon vieux, on t'envoie dans un hôpital français à Naples, parce qu'avec ce que tu as, les amerlots te coupent le pied au retour au foyer. Oui, parce qu'on t'avait une blessure qui était grave, clac, carrément le pied, puis... Vous voyez, c'est encore le destin. Je tombe dans un hôpital français, et professeur Grasset... en France, et surtout en France, dans la campagne où j'étais, c'était tous des métropolitains, et c'était tous des réservistes. J'étais le seul nord-africain et engagé. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Avec les métropolitains, c'est pas du tout pareil. Hein. J'étais vraiment le chouchou. Je sais pas, les gens, ils sentaient quelque chose qui émanait de moi, peut-être. C'était de les gradés, tout ça, c'était fantastique. Sitôt que je suis, j'ai débarqué en Italie, on va au front, on monte au front. 48 heures après, on était au front. Et bien, j'ai été envoyé en première ligne. J'étais chef de section, on m'envoie en première ligne, juste devant mon cachin, à Saint-Élia exactement. Juste devant mon cachin, et bien, en première ligne, c'est en première ligne. Hein. Les Allemands nous dominaient, le mont Cairo, le mont Chifalco, on attendait nous, parce qu'on déminait nous. On déminait devant les... Donc, on attendait, c'était pas nous à attaquer. Les génies n'attaquent pas, ils déminent. C'est encore plus terrible. Parce qu'on déminait entre l'ennemi et les amis. Alors, on a déminé toute la plaine de Saint-Élia et tout ça, et on était là. Alors, il y a eu combien d'attaques sur le mont Cachin? Tout le monde s'est cassé les dents. Les Américains, avec leurs avions, pouvaient rien du tout. D'ailleurs, ils se trompaient souvent, ils lâchaient leurs bombes sur les Français. Vous voyez, c'était... Eh bien, il a fallu le général Juin, le plus grand, pour moi, le plus grand homme de la dernière guerre, qui était mon patron, qui est devenu maréchal après, grâce à la percée avec ses tirailleurs marocains, ses tabors et tout, ils ont laissé des plumes, bien sûr, c'est eux qui ont pris le mont Cachin, en montant, en grimpant à quatre pattes, avec des mulets et tout le machin. C'est pas ni les Américains ni personne. Et puis par la suite, voyez, après la victoire, après l'arrivée à Rome, après, hop, ordre du corps expéditionnaire de débarquer en Provence. Ma compagnie m'a récupéré. C'était la même compagnie. Et j'étais content de revoir mes copains d'ailleurs. Et j'ai continué la lutte, libération de la France. Hein, parce que les Alliés ont débarqué en Normandie et nous, on a débarqué en Provence. Et puis, nous, on est monté, on a libéré les Vosges, le Jura. J'ai participé à la libération des Vosges, je suis rentré le premier dans les Vosges. Moi, je suis rentré dans des villages comme le Tio, le Tolly, Gérardmer, tout ça, Fraisse, Blenfin. Les Allemands brûlaient à la paille. Ils n'avaient plus de munitions, ils sortaient les habitants. C'est ça que les Français oublient, tout ça. Hein. Les Allemands brûlaient. Ils sortaient les habitants avec des ballots et puis ils foutaient de la paille pour brûler les maisons. Et ça leur servait à rien, ils étaient battus. Ils étaient battus, c'était la fin. Moi, je voulais rentrer dans cette Allemagne, moi, qui a failli me tuer. Hein. C'est ça, je voulais rentrer. On a pris Strasbourg, hein, et puis on l'a perdu. Et on l'a repris et on rentre immédiatement par Lauterbourg. Et c'est ma compagnie, parce qu'on était pontonniers mineurs, hein. C'est nous qui faisions les ponts aussi. Et c'est ma compagnie qui a fait le premier pont à Spire pour passer le Rhin. Ce fameux Rhin qui est terrible. Et une fois qu'on a passé toute l'armée, enfin tout le corps français, on a passé le Rhin, ça y est, ils ont demandé l'armistice. Et voilà. Et puis ils m'ont gardé encore un an en occupation.
Alors, vous finissez la guerre. Et là, vous restez pas en France, enfin vous restez pas en métropole, vous retournez en Algérie.
Ah non, parce qu'il fallait être démobilisé dans son corps, quoi. Et je suis retourné à Alger pour être démobilisé à UCND, Alger, parce que j'étais au génie. Mon régiment, c'était le 19e génie à Alger. Et je suis très heureux parce que c'est un régiment qui est pas mort. Il est à Besançon maintenant. Je suis retourné, je suis démobilisé, mais ma tête, c'est comme quand j'étais enfant. Ah, c'est là-bas, hein. Et j'ai fait tout mon possible pour revenir. Et je suis revenu en France.
Comment vous avez occupé alors vos mois là en Algérie?
Je suis pas resté longtemps. J'ai juste le truc de. J'ai été aidé un peu par ma sœur. Ma sœur qui avait un restaurant à Oran, tout. Elle m'a aidé pour revenir en France parce que j'avais pas d'argent. Hein. D'ailleurs, elle était démobilisée avec rien du tout. Hein. Hein. Et ma sœur me dit, faut pas que tu restes ici. Et ma sœur, j'ai eu le bonheur qu'elle est venue ici avec moi en 1946.
Alors quand vous avez quitté en 46 l'Algérie, fin 45, vous saviez ce que vous vouliez faire déjà en France?
Et oui, mais je cherchais du travail. Moi, je savais que j'étais sportif puisque tout petit, Moi, parce qu'à 12 ans, j'étais déjà un loustique en football, en vélo. En vélo, à 15 ans, je avec un vélo tout patraque, je battais les fils de Colin, qui avaient des vélos de course. Vous voyez, j'étais déjà sportif. J'ai eu mon brevet de préparation militaire avec la Légion étrangère. Vous voyez, parce que la Légion, attention, c'est des sportifs. Hein. Et je savais que j'étais sportif. Et puis, en plus, quand je suis retourné en Algérie, je suis retourné après. Je vous ai dit qu'après la débâcle, je suis resté à Bourg-en-Bresse pendant un temps avant que les Allemands occupent toute la France. Quand je suis revenu à mon régiment, au 19e génie, j'ai dit que j'étais sportif. Alors, ils m'ont mis dans la section de sport et j'ai fait de la course à pied. Et un an après, j'étais champion d'Afrique du Nord. Vous voyez, c'est un don de Dieu et un destin. Alors, j'arrive en France. Bon, j'étais pas. Mais j'ai dit, je suis sportif. On dit, oui, vous avez fait. Ah, oui, d'accord. Rentrer dans un club. Mais
qui vous a dit ça?
Parce que j'ai fait une course en France et je me suis distingué. Un 5000 mètres sur une piste de 200 mètres à l'LPA, là où il y a le stade français maintenant. Vous voyez, une petite piste qui existe toujours, cette piste-là. Et je me suis distingué. Alors, tous les clubs, là, celui-là, il est tout jeune, il est pas mal, tout ça. Puis on a entendu. Alors, les clubs, Racing, stade français, tout ça. Le Racing, je signe au Racing. Hein? Et j'avais signé. D'abord, j'avais promis au stade français. Il m'a trouvé un logement. Le stade français m'avait trouvé un logement de 2 pièces cuisine. J'avais ni douche ni WC dans le 19e arrondissement. Hein? Et figurez-vous que, pour ne pas changer de machin, ce logement, je l'ai occupé 14 ans. Et avec 4 médailles olympiques, champion olympique, j'habitais toujours dans ce logement, ni douche ni WC. Et ma femme, hein, la Corrézienne, elle habitait un an dedans. Alors vous voyez, une femme de gens bourgeois, tout. Vous voyez qu'elle n'est pas venue pour ma fortune. je l'ai toujours. Alors, le stade français m'a trouvé le logement, mais il ne m'a pas trouvé de travail. Et le Racing me trouve du travail. Alors j'ai signé au Racing. Du coup, le stade français a fait une réclamation à la fédération. J'étais suspendu 3 mois. Vous vous rendez compte, vous voyez le départ de Mimoun. Suspendu par la fédération parce que je lui avais promis au stade français, ils m'ont trouvé un logement et je signe au Racing. Et le Racing m'avait rien donné en échange. Il m'a trouvé du boulot. Vous savez quoi? Garçon de café. Quand on voit les gens qui se plaignent maintenant, garçon de café, je travaillais au plateau au Bois de Boulogne, au Racing Club de France, à la Croix-Catelan exactement, qui existe toujours maintenant. Je travaillais au plateau et je mangeais le reste des clients et je m'entraînais. Vous voyez? Eh bien, en 1946, je suis international B. Je me distingue, 47 champion de France. 2 ans après ma démobilisation, champion de France du 5000 mètres, 48 médailles olympiques à Londres. Médailles olympiques à Londres, vous vous rendez compte? Hein? Eh bien, je suis revenu le lendemain, vous savez ce que j'ai fait? On ne m'a pas dit on va te fêter. Le lendemain, j'ai repris ma veste de garçon de café. Et je travaillais pareil, considéré pas autrement. Parce que vous voyez, une petite anecdote. Hein? Le lendemain, j'ai été trouver le directeur du restaurant où je travaillais, ça s'appelait Pilu. J'ai dit, c'est Pilu, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas manger un peu mieux, parce que on mangeait le reste des clients, j'avais la sauce, etc. Et je lui ai dit, je ne peux pas manger. Eh bien, le monsieur s'est raidi, il était grand, ça, il réfléchit un peu, et puis il me dit, ah oui, mon petit, avec ta médaille, à partir de maintenant, ça sera la même chose. Vous voyez comment on était considérés, hein? Et ce type-là, d'ailleurs, le bon Dieu l'a puni, parce que 6 ou 7 ans après, je l'ai trouvé clochard. Et je lui ai donné à manger. Voilà. Voilà, Mimoun, comment il est. Hein.
Vous reprenez les courses en France, et là, il y a un roi incontesté du cross-country qui s'appelle Pujason.
Ah, Pujason.
Et alors là, il faut, c'est oui, la là, personne qu'il faut battre.
Alors, il était au Racing, lui. Il était au Racing. Je crois qu'il est vivant encore. Je crois qu'il est vivant, le pauvre type. Alors, c'était d'origine espagnole. Il n'avait pas servi la France, rien du tout. Mais pendant que je me battais, lui, il écumait toute la France. Hein, vous voyez, pendant moi que j'étais au front. Parce qu'il était, français par naturalisation, oui, comme ça. Bon, alors, en français, quand on a une vedette, on naturalise tout de suite, hein. Hein, oui, pour dire, voilà, c'est pour la France, quoi. Et alors, ce type-là, bien sûr, il était au Racing, dans le même club que moi. Ah, il a vu de mauvais oeil, il m'a vu arriver de mauvais oeil. Qu'est-ce que c'est quand il m'a vu courir, tout ça. Il dit, oh là là, celui-là, hein. Moi, comme garçon de café, et lui, il avait bombardé professeur de sport à l'Institut National des Sports. Il faisait que ça. Pendant que moi, je battais le pavé, là, pour servir les gens, quoi. Et malgré tout ça, un an, deux ans, je reviens presque à sa hauteur. Et mon premier cross de championnat du monde de cross des nations en Irlande, je le bats. Catastrophe. Et c'est que je le bats, champion du monde, et je viens joyeux pour lui toucher la main. Il m'a refusé la main. Il m'a refusé la main. Vous voyez, le type espagnol, un peu, hein. Il m'a refusé la main. Alors moi, avec mon caractère, surtout le type qui venait de se battre pendant 7 ans, hein. Heureusement, j'ai mon ami Marcel Ancienne, qui est un grand champion, qui était à l'équipe, là. Il est venu, il s'est jeté pour nous séparer parce que je crois que je le tuais. Voilà, je commençais mal ma carrière. Ah oui, je le tuais, moi. Ça, il n'y a pas... Et puis par la suite, il arrive en France, alors on faisait des articles sur lui, formidable. Il dit, ouais, il m'a battu là, mais vous allez voir au championnat de France, non seulement sur 5000 mètres, mais je l'attaque sur sa distance, parce qu'avant, soi-disant, j'étais encore de 10 000. Ouais, je l'attaque sur 10 000. Et le championnat de France, c'était le 5 000 le samedi et le 10 000 le lendemain. Ouais, c'est pas la fête, là. Hein. Alors, je lui donne la raclée sur 5000 mètres. Vous voyez ? Donc, j'ai prouvé. Et le lendemain, je n'ai pas présenté aux 10 000. Hein. Et ça a été fini. C'était sa fin. Mais si c'était un homme bien, ce gars-là, quand on a été un champion, on sert d'exemple pour les jeunes après. Je continue à courir. C'est fini. Et c'est arrêté. Puis après, on n'a plus entendu parler.
Mais alors, est-ce que le fait de battre Pujason vous a ouvert les portes de la gloire un peu ou
ah,
de...
Non, non, non. Pensez-vous, il m'a pas ouvert du tout, hein. Rien du tout. J'ai continué mon truc, comme machin. Alors, 1949, j'étais champion du monde. C'est une année où face à l'ennemi monde, champion des champions. Vous savez, quand on est champion des champions, je l'étais deux fois d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose, j'étais pas par la presse, j'étais le plus grand champion en France de tous les temps, quoi. Y a pas... Et bien. Ils se sont réveillés, ils m'ont donné un petit plat sous comme moniteur démonstrateur contractuel.
Mais alors qui c'était les gens de la fédération, l'État ?
L'État, c'est l'État. La fédération n'a rien à foutre. La fédération, rien, c'est zéro, c'est petit. Hein. Alors l'État me met à l'Institut National. Il dit, ce gars-là, quand même, parce que l'année 49, j'étais champion du monde et sur piste, j'ai battu tout le monde. Là, les Suédois, les Anglais, toutes les Anglais qui étaient imbattables, j'allais chez eux, je leur donnais la raclée. Hein. Les Norvégiens, j'écumais tout. Alors ils se sont dit, tiens, on va lui donner une petite place, celui-là. Parce que après Garçon de Café, j'ai été huissier. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Parce que j'ai un brave ministre qui est vivant encore, un ancien ministre MRP, Jacques Hogarde, qui m'a pris comme huissier. C'est-à-dire que pour les lettres et tout ça. Et même ce brave ministre, c'est lui qui faisait le boulot et qui me disait, vas-y t'entraîner. Hein. Et même c'est lui qui m'a pistonné un petit peu pour l'Institut National des Sports. Et quelle place qu'on me donne comme moniteur démonstrateur contractuel. C'est-à-dire que j'avais pas à faire, je faisais une petite bêtise, j'étais limogé, j'étais foutu à la porte. Quoi, ouais. Et voilà comment Mimoun a continué sa carrière, 49, 50, 49 champions du monde, 1950, 2 médailles d'argent au championnat d'Europe. Hein. 1952, 2 médailles d'argent, 5000 mètres, 10 000 mètres.
Hein. Ouais, mais à cette époque, est-ce que vous étiez dépité de ne pas recevoir les honneurs ? vous battez, vous êtes champion du monde, et puis vous constatez que bon, votre situation s'améliore, mais pas beaucoup plus.
Non, moi, j'étais pas député du tout. Moi, c'était tout en machin. J'étais heureux. J'étais heureux en pensant à mes 18 ans quand je me disais c'est là-bas ton pays. Vous voyez, à même 18 ans, quand je disais, c'est pas là, ton pays, c'est fantastique, cette France-là. Mais je fais, bah, le drapeau, la Marseillaise, parce que la Marseillaise, je l'ai fait sonner plus d'une fois, plus que les présidents de la République, hein. Plus. Et en parlant, je saute du coca-là, en parlant de président de la République, j'ai été reçu par 6.
Oui, mais alors, à l'époque-là, les débuts des années 50, vous êtes reçu par pas grand monde. Au niveau politique, au niveau de l'État.
Si. J'ai pas après mes deux médailles, mais j'ai été reçu deux fois par Auriol. Hein. Après ma médaille d'argent de Londres, j'ai reçu par le président Auriol. Et après mes deux médailles d'Helsinki par le président Auriol.
Et qu'est-ce qu'il vous dit, le président Auriol?
Le président, à ce moment-là, c'était pas les... Vous savez, c'était des présidents, pas comme maintenant. Hein. Maintenant, un président, c'est quelqu'un. Mais à ce moment-là, ils étaient des potiches, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui demande? Sauf le président Coty. Que je suis sûr qu'il est au paradis, lui. Hein. Parce que le président Coty, quand il m'a reçu, j'ai commencé...
En quelle année?
Mais c'est 56, après mon titre olympique. C'est la 4e République encore. Hein. Et le président Coty me reçoit. Premièrement, j'ai demandé à la présidence qu'on puisse recevoir un autre champion français qui était abandonné, quoi, partout. El Ouafi, qui était champion olympique du marathon aussi. Et on l'a cherché, avec la complicité du journal de l'équipe, on l'a trouvé, et j'ai fait recevoir par Coty. Et alors, le président Coty, à la réception, il me met la main sur le dos, il me dit, t'inquiète pas, parce qu'il était question pour ma situation sociale. Hein. Il ne faut pas rester moniteur démonstrateur tout le temps. Là, hein. Alors, il me reçoit, ce brave Coty, puis il me dit, t'inquiète pas, mon fils, je m'occupe de ta situation. Moi, je dis, ça irait bien, monsieur le président, si j'étais logé. Je suis très mal logé. Je suis dans mon petit deux pièces cuisine. Mais quand la presse vient me voir, je dis, j'ai honte, je les reçois en bas dans la rue parce que je veux pas qu'ils... Et c'est affreux, dis donc. Deux pièces cuisine, sans douche ni WC, avec 4 médailles olympiques. Et alors, le président Coty, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il voulait prendre le crayon pour... Et puis il appelle son chef de cabinet. Puis il lui dit, entre nous trois, il dit, dès demain, il faut voir le préfet, je veux qu'Alain Mimoun soit logé. Et bien, 6 jours après, j'avais un logement. Hein, vous voyez, ça c'est... Hein, vaut mieux aller au bon Dieu qu'aller voir ses saints. Hein. Et j'avais un logement, 9e étage, là, il y avait des glaces partout. C'est à Porte des Lilas, là. Et bien, il m'a dépanné pendant 2 ans, vous voyez, avant que je fasse construire. C'est quand même formidable. Ça marque ma vie, ça, hein.
Mémoire du siècle, Alain Mimoun.
Alors, pour revenir aux années 50, et alors votre montée en puissance, l'année 56, c'est une année fastueuse. Champion olympique, vous êtes. Vous recevez la médaille de la Légion d'honneur.
Attendez. C'est une année bénie. Une année grand cru, comme pour le grand vin, vous voyez. Une grande année, c'est fantastique. L'année 56, je me marie. Hein? J'enlève mon 4e titre de champion du monde de cross. Hein? Je suis fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Coty. Vous voyez que j'ai eu la Légion d'honneur parce que c'est à titre militaire, moi. Je l'ai eu avant d'être champion olympique. Hein? Bon. Légion d'honneur, je suis champion de France du 5000 mètres, champion de France du 10 000 mètres, record de France de 20 km, record de France de l'heure. La naissance de ma fille, la veille et le lendemain champion olympique. Vous vous rendez compte? En 56. Vous voyez? J'ai été 22 fois champion de France. Vous voyez? 22 fois. Et j'ai gagné 10 titres de champion de France après mon titre olympique. J'ai été 10 fois champion de France après mon titre olympique, avec aux amateurs. J'étais champion de France à l'âge de 47 ans. Malgré tous ces titres, sous toutes ces médailles, il me semblait que dans ce pays-là que j'ai gagné, je ne peux pas dire qu'il m'a adopté, parce qu'il me semble que je suis né ici, il me semble que ma tâche n'était pas finie. Vous voyez? Et vous voyez que ce n'était pas une question d'intérêt parce qu'on ne touchait pas d'argent. Parce que moi, si je touchais 100 francs, j'étais disqualifié. Hein. Alors que maintenant, vous voyez comment ils s'engraissent. Hein. Eh bien, moi, c'était pas une question d'intérêt, parce qu'on touchait rien. Mais moi, à 36 ans, je me sentais 20 ans. Je me sentais... Oh, et en vérité, c'est vrai, parce qu'à 36 ans, j'étais mieux que les gars de 20 ans. À 36 ans, je battais tout le monde entier. Il n'y avait pas un Anglais qui me battait. À 40 ans, j'ai battu les Anglais. À 40 ans, à White City, devant 50 000 personnes, j'ai battu l'Anglais qui avait 20 ans. Les gens qui s'imaginent... Ils n'ont qu'à prendre mon exemple. Les gens qui s'imaginent qu'on devient champion comme ça, il y a le don de Dieu. Et il faut le dire la vérité. Et je donne des exemples, je dis, Mozart, il composait à 4 ans. Et le sport, c'est la même chose que la musique, hein, dans tous les domaines, il y a un don de Dieu. Hein. Et pourquoi? Vous vous rendez compte, malgré 7 ans de guerre, manger de la saloperie, les éclats dans les jambes, et je ramasse 4 médailles olympiques. Vous croyez qu'on m'a fabriqué? C'est pas vrai, ça. Mais c'est dans le ventre de ma maman. D'ailleurs, ma maman, la guerre est finie, j'étais pas officier. Elle était déçue. Je suis pas mort. Elle se dit, il est pas mort, ça va. Parce qu'elle suivait toujours son rêve. Mais, mon cher monsieur, mais c'est quand je suis devenu champion olympique. Elle avait, je sais pas à quel âge, qu'elle était déjà vieille. Elle sautait comme un cabri, puis elle disait à toutes ses voisines, voilà mon rêve, voilà, voilà mon rêve. La vieille qui lui avait dit, t'as un garçon dans le ventre, il deviendra quelqu'un.
Quand vous gagnez ces médailles, vous pensiez un peu à votre pays, à vos amis là-bas en Algérie,
mais
que vous laissiez...
Non, c'est pas mon pays. Depuis 18... Bon, sacré, il faut me répéter, quoi. Moi, depuis l'injustice de certificat d'études, à l'injustice de la bourse, c'est parti. C'est là le cerveau est encore jeune et réceptif. C'était fini, c'était plus mon pays là-bas. Ah, c'était plus, ça n'a jamais été. Je veux pas renouer l'endroit. D'ailleurs, j'ai des fois des petites nostalgies. Je veux pas renouer le visage du pays, la terre, les montagnes. Hein? Mais au point de vue citoyen, c'était plus mon pays. D'ailleurs, je garde toujours le truc quand on nous disait à l'école, on nous disait nos ancêtres, c'est les Gaulois. Et je me croyais toujours Gaulois. Mais ça, c'est un truc fantastique, ça. Je me croyais toujours Gaulois. D'ailleurs, la bénédiction de Dieu, ma femme est née dans le pays gallo-romain, la Corrèze. Gallo-romain. D'ailleurs, nous avons beaucoup de ruines chez nous, la Buja et compagnie. Nous avons des ruines. Et quand je suis là-bas, il me semble que je suis né au plateau de Mille Vaches. Et en plus, quelque chose d'heureux, je suis né dans le plateau, moi. 1400 mètres d'altitude, hein, le Telag, là. Et bien, le bois, la forêt... Et le chêne, le sapin, le bouleau, etc., etc., c'est exactement la même végétation que le plateau de Mille Vaches. C'est incroyable, ça.
Donc, en 56, là, il faut revenir quand même sur les Jeux Olympiques de Melbourne, avec cette course extraordinaire où vous bataillez avec Zatopek.
Ma carrière a été sous le règne de Mick Zatopek. Et qui est mon grand ami. Et je suis médaillé olympique à Londres, deuxième. 4 ans après, 2 médailles d'argent, toujours deuxième. Mais championnat d'Europe, 2 médailles d'argent, toujours derrière lui. Les plus forts du monde, hein, pendant 10 ans. Les plus forts du monde. Hein. Et là, je vais aux Jeux olympiques, j'allais courir le 10 000 mètres. Vous voyez? Et en effet, j'ai couru le 10 000 mètres. Où j'ai fait 10 ou 11e, je ne me rappelle pas. Le lendemain, je me tape 35 km d'affilée. Les gens redisent, il est fou, il a couru 10 000, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, je dis, je fais le marathon. Bah, les gens rigolaient, mais les journalistes, même français, ça riait, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Et ce qu'il a fait sur 10 000, et j'étais, de tous les marathoniens, j'étais le seul à avoir fait le 10 000, hein. Seul. Hein.
Et comment vous êtes arrivé au marathon?
Le marathon, vous pensez que c'est pas comme ceux de maintenant qui crient partout sur tous les toits? Pendant 2 ans, je l'ai préparé en Corrèze, chez mes beaux-parents, et nourri par mes beaux-parents parce que j'avais pas aucun moyen. Heureusement que ma belle-mère me faisait à manger et tout. Et je me tapais 3 entraînements par jour pendant 2 ans. Je savais ce que je faisais, mais j'allais pas le crier sur tous les toits en disant, vous allez voir, je vais faire... Mais personne, ne savait que j'allais faire le marathon. Même pas ma femme pouvait lui demander. Même pas ma femme. Elle ne savait pas. Mais moi, j'avais ça dans le crâne et la préparation était là. Et je me disais, mais voyez, pour pas vous mentir, mais je croyais pas gagner. J'allais pas dire gagner. Mais je me suis dit, tiens, montez le drapeau. Montez sur le côté, bien sûr, sur 10 000 mètres. Tu l'as remonté deux fois encore sur le côté, sur 5 000, 10 000. Si, vous voyez, c'est toujours cette affaire de drapeau. Si tu pouvais le monter pour une médaille de bronze, mais c'est fantastique, une médaille de bronze. Il y en a beaucoup qui l'ont négligé. Moi, je ne l'ai pas négligé. Alors, c'est ça. C'est pas... Bon, il y a des journalistes qui disent « Mimoun était certain de gagner ». Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le seul type qui me donnait favori, c'était Zatopek. Et moi, je l'insultais. « Tu es un con !» Je dis « Ça va, tu ne vas pas !»
Mais ça, vous aviez des bonnes relations avec lui, comme ça, vous le connaissiez bien.
Mais c'est mieux que mon frère, Zatopek. Son frère, je dis, alors, je répète, c'est moi qui l'ai fait manger le premier des crevettes à Alger en 1946.
Et comment vous le connaissez déjà?
Depuis 1946, il est venu courir là-bas. Et il m'a remarqué, mais j'étais loin, moi. Mais il m'avait remarqué, on est devenus copains. C'est pas sur le compte du destin, ça aussi? Si, en 47, sur machin, si tu arrivais, il m'a invité à Prague. Sans courir, il m'a invité parce qu'il avait pris le coup de foudre de Mimoun. Il a vu ce petit-là. Et lui, était... Attention, hein. Et attention, il est plus jeune que moi. Il a un an de moins jeune, plus jeune. Hein. Mais il m'avait remarqué. Il était jeune, lui aussi. Et on est devenu... L'amitié est partie de là. 47. 48, je fais deuxième derrière lui. Ah, je me suis pas trompé, ce gars-là. Quatre ans après, deux fois deuxième derrière lui. Mais c'est formidable, ce type-là. C'est mon premier wagon, monsieur la locomotive, parce qu'on l'appelait la locomotive tchèque. Hein, et puis, et là, il était là dans sa tête. Non, c'est toi, mais il me disait avec son accent, méfie-toi des Russes. Vous vous rendez compte, c'est lui qui entraînait les Russes. Et puis il me dit, méfie-toi, parce que Filine et Ivanov, ils avaient couru 2h13 à Moscou. Avant de venir. Donc, ils étaient redoutables. 2h13 à ce moment-là, attention. Hein? Et moi, je disais, écoute, Emile, tu viens de battre... Et c'est l'année où il était le plus fort. Je ne sais pas qu'il avait battu le record du monde des 20 km de l'heure et tout. Hein? Il avait fait 20 km 400 dans l'heure. Vous vous rendez compte? Donc, moi, je dis, Emile, ça ne va pas. Non, écoute, arrête. Si. Vous voyez, comme tous ces grands cracks, il avait un flair. Il avait le flair. Divin. Il sentait.
Vous avez quitté Paris pour l'Australie, pour Melbourne, pour ces Jeux, avec une délégation française bien structurée. Et comment se déroulaient un peu les relations à l'intérieur et là-bas même, comment vous avez vécu là?
L'équipe de France, vous pensez, j'étais capitaine. C'était moi, j'étais capitaine pendant 10 ans d'ailleurs. Mais là, j'étais capitaine, toute l'équipe de France me respectait. Attention, il n'y a pas. Non, moi, je n'ai jamais eu d'histoire, moi. J'ai jamais eu d'histoire, je vous dis pas que ça aurait été terrible. Un capitaine, c'est quand même un respect. Hein. Et puis, on m'écoutait. Hein. Et puis, au défilé, c'est moi qui portais le drapeau et tout. Hein. Au défilé international, c'est moi qui portais le drapeau. Hein. Alors, c'est moi qui restais le plus longtemps capitaine, d'ailleurs. Et alors, là-bas et tout. Alors, la veille.
Et comment ça se passait? Il y avait.
La veillée d'armes. Parce qu'on est parti 3 semaines là-bas hein, avant. Hein. Alors pendant 3 semaines, un temps affreux, le vent, la pluie, on s'entraînait quand même, et c'est terrible, ça va pas s'arrêter, ça, ce truc-là. Et on mangeait des kilomètres, etc. Et puis voilà, arrive le marathon, c'est le dernier jour. Hein. Le dernier jour, et c'est la dernière épreuve. Hein. Bon, la veille, j'étais tranquille, la veillée d'armes, et le soir, je reçois un télégramme du journal de l'équipe. Je croyais qu'il allait me dire bon courage ou tout ça. La naissance de ma fille. Oh là là, parce que ma femme, elle était prête d'accoucher quand je suis parti là-bas. Je n'ai pas voulu le montrer à personne. Il n'y a qu'un Michel Jazzy qui était dans ma chambre, logé dans ma chambre. Michel Jazzy, je lui ai montré. Je lui ai dit, écoute, tu dis rien. Il avait une âme. Hein. Il m'a écouté, il a dit à personne. Hein. Et moi, dans mon fort intérieur, comme je suis superstitieux, mais je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou c'est un bon signe, ou c'est la catastrophe. Bon, premier signe, précurseur. Hein. Alors le deuxième signe, pendant, je vous ai dit, 3 semaines du mauvais temps. Et ce jour-là, le lever, oh là, un ciel immuable, un ciel bleu, une chaleur dès le matin, 40 degrés. 40 degrés. Fantastique. Ouais. Départ à 3 heures l'après-midi, vous voyez un petit peu. Et le troisième signe. Ah, j'ai vu. Alors là, ah, j'ai dit, c'est là. Alors, premier signe, naissance de ma fille. Deuxième signe, 40 degrés. Et troisième signe, le dossard numéro 13. Parce que ça porte bon à, pas à beaucoup, à des exceptions choisies par Dieu, paraît. C'est tout. Bon, et alors, le départ, et j'étais favori que par mon copain. Alors, mon copain, au bout de 10 km, il craque. Et comme il m'a dit de surveiller, il faut surveiller les Russes. Alors, j'étais en tête avec des casquettes. Moi, j'étais en seconde, toujours en seconde. D'ailleurs, c'était comme ça. Chaque fois qu'elle se sauvait, je sautais dans la rue, comme ça. Et ça continuait. Et j'avais un petit ami américain qui s'entraînait avec moi, qui avait 20 ans, il a fait 12e, mais pas mal, Kelly. Il parlait un peu français et tout. Et il m'a suivi pendant tout l'entraînement, pendant 3 semaines. Hein. Et 20 km de l'arrivée, qu'est-ce qu'il fait ce phénomène? Il vient, il me tape sur le dos, il me dit « Come on, Joe !» Et puis il pique un sprint, 400 mètres de sprint. Et moi, j'ai lâché les Russes et tout. Puis je dis, puisqu'il est, il s'en va, je ne vais pas le lâcher. Hein. Et je vais, et au bout de 400 mètres juste au retour, il a presque stoppé. Moi, je me retourne, les Russes étaient au moins 70 mètres. Et j'ai dit, mais je ne veux pas les attendre. Eh bien, ce type-là, le destin, il m'a servi de rampe de lancement. Je suis parti, j'ai couru la moitié de la course tout seul. 40 degrés. Fantastique. Pendant, au 32e kilomètre, alors j'étais bien, impeccable. Au 32e kilomètre, le coup de marteau. Il me semblait que j'avais toute cette maison. Malgré que, au 32e kilomètre, quand j'ai reçu le coup de masse, là, je souhaitais presque qu'il vienne sur moi pour me battre contre quelqu'un. Ben, c'est plus terrible quand on se bat tout seul. Hein. Et puis, en plus, j'avais tous les machins du gaz carbonique, parce que c'était les Français qui faisaient le film. Rendez-vous à Melbourne. Et j'avais les caméras, bon, ils faisaient leur boulot, mais moi, j'avais... Alors j'avais un mouchoir que ma femme m'avait donné. Parce qu'avec la chaleur pour la sueur, il me semblait qu'il pesait une tonne. Et à un moment donné, la défaillance est passée. Et j'oublie pas de vous dire que j'ai vu 2 mirages pendant la défaillance. Il y avait un pont en dessous qui était à 12 km de l'arrivée et un qui était à 1 km. J'ai pris celui qui était à 12 km pour celui qui était à 1 km et je me voyais champion olympique. Et alors quand je suis passé sous le pont et puis j'ai vu cette côte qui faisait au moins 3 km, alors j'ai réalisé que c'était pas ça. Alors je dis, c'est là qu'il faut avoir quelque chose dans les pantalons. Et bien, je m'insultais, salaud! Je pensais à ma maman, à ma femme, à ma fille qui venait de naître. Je dis, tu te rends compte, mais tu es plus fort qu'eux sur, intérieurement. Hein, parce que nous sommes 2 personnes. Hein. Tu es plus fort qu'eux dans les côtes. Et dans les descentes. Mais oui, tu es plus fort qu'eux dans les descentes. Et jusqu'au dernier 5 km, alors 2 motards australiens qui m'ont pris à 5 km de l'arrivée. Hein, 2 motards. Alors, les motards étaient Very good, Johnny. Ben, il me disait, vous savez que Very good, Johnny. Ça veut dire, c'est bon. Alors là, mon ami, ouais, il me semblait que je ne touchais pas le parterre. Tellement. Et puis alors, là où j'ai vu le pont qui était en dessous à 1 km, ah, j'ai dit, toi, mon gaillard, comment je vais te dépasser? Tac, je passe, et puis le Porsche, 130 000 personnes, le plus grand stade du monde, qui est un stade de cricket maintenant. Et alors, il me semble, c'était une bombe atomique, là, le stade, tout le monde se lève. Hein. Oh, il me semblait que c'est le dernier 400 mètres qui a été couvert, le record de tous les temps, 1 minute 6 secondes, dans le dernier 400. Vous vous rendez compte? Et oui, la victoire, c'est le marathon le plus terrible, 40 degrés, et c'est le marathon le plus populaire de tous les temps. Il y avait 500 000 personnes sur le parcours. Vous voyez? Et là, je coupe le fil, je suis champion olympique. quand j'ai coupé le fil, on voulait m'allonger, quoi, on s'allonge, mais je voulais pas, moi, je voulais pas me coucher. Moi, j'ai cru que c'était mon copain, ça tombe pas qu'il était deuxième. Alors, j'attendais pour tomber dans ses bras, parce que lui, il me donnait favori. Il fallait bien que je l'attende. Et je savais qu'il n'avait pas abandonné. C'est pas des gens qui abandonnent, ça. Alors, le deuxième, c'était un Yougoslave. C'était un copain aussi, et qui était un grand champion aussi. Alors, j'ai dit, il est peut-être troisième. Troisième. Eh bien, c'était pas troisième, c'était le champion d'Europe, c'est un Finlandais. Karvonen. Et entre parenthèses, je suis béni que ce soit un Finlandais qui a fait troisième. Vous savez pourquoi? Ils ont été capables de dire il a gagné parce qu'il faisait chaud. Toutes les autres médailles, on arrivait, on buvait un coup et puis adieu, au revoir. Hein? Et alors là, il y a des témoins encore vivants, 15 000 personnes à Orly. 15 000 personnes. Vous voyez, tapis rouge. D'ailleurs, on m'a dit, reste là-bas, Alain, reste. Toute l'équipe de France est descendue. Et quand je suis venu avec mon cache-poussière, là, j'ai trouvé de chaque côté des futurs professeurs. L'INS, ils m'ont transporté, ils ne voulaient pas que je marche à pied. Jusqu'à Lisba, ce qu'on appelle Lisba. Et une petite anecdote, le ministre des Affaires étrangères américaines, Foster Dulles, est arrivé au même moment, il est passé inaperçu. Ah ouais, la grande finale, la France m'a fêté, là, hein, faut dire. Il n'y a pas une médaille olympique qui a été fêtée comme ça. Hein. Et puis après, on s'en va à Cognac-G, à la télévision, avec le ministre et tout ça. Et on arrive là-bas à Cognac-G, puis une grande pièce comme ça, et au fond, il y avait un truc, une espèce de couvert avec une couverture. Et puis après les discours, le type de la télé dit, on va faire voir Alain Mimoun sans cadeau. Et moi, je croyais qu'il m'offrait un poste de télévision. Et en effet, c'était un poste de télévision, mais qu'est-ce que j'ai vu? Ma fille. Ils ont été filmés, ma fille, à Tulle, en Corrèze, et ils me l'ont montré. Ça veut dire que j'ai vu ma fille à la télé avant de la voir en naturel. Quand je suis revenu champion olympique avec ma médaille d'or, mon rêve, c'est toujours des rêves encore, c'est de créer quelque chose comme centre d'entraînement, comme j'ai été un petit peu influencé par les centres suédois, Volodalen, Finlandais, Vyrumäki, parce que j'étais tout le temps invité là-bas. Et à ce moment-là, je n'étais pas champion olympique. Je me disais, mais en France, les journalistes français font de la publicité pour l'étranger. Mais la France, il y a des coins aussi beaux, sinon mieux. Hein? C'était dans ma tête, ça. Alors, champion olympique, je me trouve au plateau de Mille Vaches, le pays de ma femme. Ah, et je vois ces coins-là. Ah, je dis, c'est pas possible. Ah, je me suis dit, je suis quatre fois médaillé olympique, champion olympique, je vais attaquer les ministres. J'ai attaqué Herzog. Oh, il est dans son fort intérieur, celui-là, parce qu'il est champion olympique, je suis sûr que c'était comme ça. Ces messieurs-là, ils sont... Hein? Ah ben rien, il n'y a pas d'argent. Il est parti, Missoff, ministre à part entière du général de Gaulle. Alors je vais le voir, aussi, je suis reçu. Alors lui m'appelait fils. Mais fils, il n'y a pas d'argent. Mais oui, c'est comme pour les inventions. C'est les Français qui ont les plus grandes inventions, ça s'en va à l'étranger. Hein? Vous voyez, c'est ça la mentalité des Français. Etc. Alors je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et alors ma femme, comme elle aime son pays, elle me dit, tiens bien ce coin-là, Buja. Si on trouve une vieille baraque, comme on avait déjà, on n'avait pas encore fini ici, hein? Mais elle voulait une vieille baraque pour restaurer, pour aller là-bas, comme c'est son pays. Hein? En résidence secondaire, si on veut. Pour notre fille, qui avait un peu d'âge, mais tout, puis là-bas, l'âge, mais la sinusite, fantastique. Fantastique, c'est un air, c'est comme la bourboule et tout ça. Alors, j'ai dit, t'as une bonne idée. Et on s'est débrouillé, crédit, etc. Ma belle-mère aidant un peu, on a trouvé une vieille maison. Mais alors, on ruine quatre murs. Et on a commencé à restaurer. Et quelques temps après, j'étais en Allemagne. Je rentre d'Allemagne. Vous voulez que je vous la raconte, l'histoire? Parce que c'est authentique. Je rentre d'Allemagne. Ma femme me dit... Parce que le journal de chez nous, La Montagne, avait mis... C'est malheureux, Alain Mimoun, fils adoptif de la Corrèze, voudrait créer un centre pour les jeunes. Personne ne veut l'aider. Voilà. Comme ça, notre fille est comme ça. Bon, je rentre dans le match, j'étais avec mon club. Je rentre, ma femme me dit, tu fais bien de rentrer. Je dis, pourquoi? Il y a un monsieur qui est appelé de Matignon.
C'était en quelle année?
Septembre 66. C'était Pompidou qui était président de la République. Hein? Non, je suis bête. J'étais Premier ministre. J'étais Premier ministre. C'était De Gaulle encore. Et alors, il me dit, parce que les femmes, elles ont l'intuition, elle me dit, c'est un monsieur qui m'a l'air bien, il va te rappeler ce soir de Matignon. Mais je dis, Matignon, monsieur. Je dis, c'est pas Pompidou. Elle me dit, tu es fou. Alors, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui veut des conseils ou quelque chose. À 20h pile le soir, coup de téléphone. Allô? Oui, c'est monsieur Mimoun. Je dis oui. Oh, au téléphone, on voit la chaleur humaine. Il n'a pas changé. Alors, oh, je suis content, monsieur Mimoun. Il m'appelait monsieur à ce moment-là. J'ai suivi votre carrière. Il était conseiller technique chez Pompidou. Vous vous rendez compte? J'ai suivi votre carrière, etc. J'ai vu quelque chose sur le journal. Là. Vous m'intéressez beaucoup. Je suis un fils de la Corrèze. Il avait quelque chose derrière la tête, vous comprenez? Je suis un fils de la Corrèze. Alors moi, oh, j'ai pensé à Dieu, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai laissé tomber, voilà que... Alors, le lendemain, à 11h, je suis reçu à Matignon. Moi, je ne savais pas qui c'est ce type-là. Alors, les gardes mobiles, c'est tout de suite, ils ne me soulevaient pas. Après, l'huissier, grand huissier, qui dit, fille monde, ah, on est content de vous voir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? On me monte en haut, il y a une jeune secrétaire qui me... dans son bureau, elle me dit, j'ai pas retenu le nom. Elle me dit, monsieur Chirac vous attend. Je ne me suis pas retenu, qui c'est ce Chirac-là? Inconnu au bataillon. Je rentre dans une pièce immense. Ah oh là! Un jeune homme, 32 ans, il se déplie en deux, puis viens, puis alors! À la télé, j'aime bien que je fasse les gestes. Alors, il vient et puis il me donne un fauteuil Louis XV. Et puis, il me touchait comme si j'étais une relique. Vous voyez, comme ça. Si, puis il me disait, oh, merci, monsieur Mimoun, ce que vous avez fait pour la France. D'ailleurs, le général de Gaulle m'a dit la même chose un an après. Hein. Ouais, merci pour la France. Vous savez, écoutez, et puis alors il me dit, vous m'intéressez beaucoup, votre idée est bonne, moi je suis de là-bas. C'est mon pays. Je ne suis pas grand-chose, monsieur Mimoun. Je suis conseiller technique. Mais ne vous inquiétez pas, déjà à ce moment, ça me résonne à mes oreilles. À ce moment-là, il me disait, j'ai le bras long. Et il était que conseiller technique. Mais c'est un visionnaire, ce type-là. C'est un visionnaire. Il me dit, j'ai le bras long. Et le lendemain, on est reçu par Missoff. Et tac, patatac, celui qui me disait, il n'y a pas d'argent. Je te donne mon fonds de caisse, fils, de 20 millions anciens. Et voilà, Bujat, avec Chirac Mimoun, on a commencé avec 20 millions anciens, il y a pour 4 milliards. C'est le plus beau centre d'Europe. Hein? 3 gymnastes. La plus belle piste de France. Restaurant, cafétéria, 2 saunas. Vous voyez? Un pauvre type comme moi. Grâce à Chirac. Parce qu'il fallait les deux. Hein? Et voilà. Et mon rêve, vous savez ce que c'est? C'est qu'il soit nationalisé. Et moi, comme champion de ce pays... Quand je serai au cimetière, je laisse au moins quelque chose pour la jeunesse. Parce que les champions maintenant, qu'est-ce qu'ils laissent? Ils se remplissent les poches. Ils demandent que ça, c'est tout. Hein? Leur rêve, ils s'en foutent. Il n'y a que l'argent qui compte. Hein? Et moi, mon rêve entre nous, mon rêve. Vous voyez? J'avais monté le drapeau 3 fois sur le côté. Et mon rêve, presque de gamin, c'était de le monter au milieu. Et le jour qu'il est monté au milieu à Melbourne, c'est ma plus... belle image de ma vie. Il n'y a pas de politique pour Mimoun. Il a servi la France. Et je suis aimé par monsieur tout le monde. L'homme de la rue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'homme de la rue. C'est pas les grands pontes, ni les politiques, ni rien du tout. Moi, je m'en fous, je les ignore, moi. Ceux-là, je les ignore. Les politiques, en dehors de Chirac et de Gaulle. Bon, De Gaulle est parti, le pauvre. Mais en dehors de Chirac, les politiques n'existent pas pour Mimoun. Parce que je suis plus fort qu'eux. J'ai servi la France. Je l'ai mérité, sans intérêt, moi.
C'était Mémoire du siècle, Alain Mimoun, par David Acoun. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Clotilde Pivin.
Cette émission a été diffusée le 21 juillet 1996 sur France Culture.